5. Nous n'imprimerons pas le nom des témoins. Nous avons dit pourquoi. Mais on reconnaîtra l'accent sincère et poignant de la réalité. Un témoin dit « Je n'avais pas fait 3 pas sur le trottoir quand la troupe qui défilait s'arrêta tout à coup, fit volte-face, la figure tournée vers le midi, abattit ses armes et fit feu sur la foule éperdue par un mouvement instantané. Le feu continua sans interruption pendant 20 minutes, dominé de temps en temps par quelques coups de canon. Au premier feu, je me jetai à terre et je me traînai comme un reptile sur le trottoir jusqu'à la première porte entr'ouverte que je pus rencontrer. C'était la boutique d'un marchand de vin, située au numéro 180, à côté du bazar de l'industrie. J'entrai le dernier. La fusillade continuait toujours. Il y avait dans cette boutique près de 50 personnes, et parmi elles 5 ou 6 femmes, 2 ou 3 enfants. 3 malheureux étaient entrés blessés, 2 moururent au bout d'un quart d'heure d'horribles souffrances. Le 3e vivait encore quand je sortis de cette boutique à 4 heures. Il ne survécut pas, du reste, à sa blessure, ainsi que je l'ai appris plus tard. Pour donner une idée du public sur lequel la troupe avait tiré, je ne puis rien faire de mieux que de citer quelques exemples des personnes réunies dans cette boutique. Quelques femmes, dont 2 venaient d'acheter dans le quartier les provisions de leur dîner, un petit clerc d'huissier envoyé en course par son patron, 2 ou 3 coulissiers de la bourse, 2 ou 3 propriétaires, quelques ouvriers, peu ou point vêtus de blouses. Un des malheureux réfugiés dans cette boutique m'a produit une vive impression. C'était un homme d'une 30aine d'années, blond, vêtu d'un paletot gris. Il se rendait avec sa femme dîner au faubourg Montmartre, dans sa famille, quand il fut arrêté sur le boulevard par le passage de la colonne de troupes. Dans le premier moment, et dès la première décharge, sa femme et lui tombèrent. Il se releva, fut entraîné dans la boutique du marchand de vin. Mais il n'avait plus sa femme à son bras, et son désespoir ne peut être dépeint. Il voulait à toute force, et malgré nos représentations, se faire ouvrir la porte et courir à la recherche de sa femme au milieu de la mitraille qui balayait la rue. Nous eûmes les plus grandes peines à le retenir pendant 1 heure. Le lendemain, j'appris que sa femme avait été tuée et que le cadavre avait été reconnu dans la cité bergère. 15 jours plus tard, j'appris que ce malheureux, ayant menacé de faire subir à M. Bonaparte la peine du talion, avait été arrêté et transporté à Brest, en destination de Cayenne. Presque tous les citoyens réunis dans la boutique du marchand de vin appartenaient aux opinions monarchiques. Et je ne rencontrais parmi eux qu'un ancien compositeur de la Réforme, du nom de Meunier, et l'un de ses amis qui s'avoua républicain. Vers 4 heures, je sortis de cette boutique. Un témoin, de ceux qui croient avoir entendu le coup de feu parti de la rue de Mazagran, ajoute « Ce coup de feu, c'est pour la troupe le signal d'une fusillade dirigée sur toutes les maisons et leurs fenêtres, dont le roulement dure au moins 30 minutes. Il est simultané depuis la porte Saint-Denis jusqu'au café du grand balcon. Le canon vient bientôt se mêler à la mousqueterie. » Un témoin dit « À 3h15, un mouvement singulier a lieu. Les soldats qui faisaient face à la porte Saint-Denis opèrent instantanément un changement de front, s'appuyant sur les maisons depuis le gymnase, la maison du pont de fer, l'hôtel Saint-Phar, et aussitôt un feu roulant s'exécute sur les personnes qui se trouvent au côté opposé, depuis la rue Saint-Denis jusqu'à la rue Richelieu. Quelques minutes suffisent pour couvrir les trottoirs de cadavres. Les maisons sont criblées de balles, et cette rage conserva son paroxysme pendant 3 quarts d'heure. Un témoin dit « Les premiers coups de canon dirigés sur la barricade Bonne Nouvelle avaient servi de signal au reste de la troupe, qui avait fait feu presque en même temps sur tout ce qui se trouvait à portée de son fusil. » Un témoin dit Les paroles ne peuvent rendre un pareil acte de barbarie. Il faut en avoir été témoin pour oser le redire et pour attester la vérité d'un fait aussi inqualifiable. Il a été tiré des coups de fusil par milliers. C'est inappréciable. Note, le témoin veut dire incalculable. Nous n'avons voulu rien changer au texte. Fin de note. Par la troupe, sur tout le monde, inoffensif, et cela sans nécessité aucune. On avait voulu produire une forte impression. Voilà tout. Un témoin dit, lorsque l'agitation était très grande sur le boulevard, la ligne, suivie de l'artillerie et de la cavalerie, arrivait. On a vu un coup de fusil tiré du milieu de la troupe. Il était facile de voir qu'il avait été tiré en l'air par la fumée qui s'élevait perpendiculairement. Alors ce fut le signal de tirer sans sommation et de charger à la baïonnette sur le peuple. Ceci est significatif et prouve que la troupe voulait avoir un semblant de motif pour commencer le massacre qui a suivi. Un témoin raconte « Le canon, chargé à mitraille, hache les devantures des maisons depuis le magasin du prophète jusqu'à la rue Montmartre. Du boulevard Bonne Nouvelle, on a dû tirer aussi à boulet sur la maison Bilbock, car elle a été atteinte à l'angle du côté d'Aubusson, et le boulet, après avoir percé le mur, a pénétré dans l'intérieur. » Un autre témoin, de ceux qui nient le coup de feu, dit « On a cherché à atténuer cette fusillade et ces assassinats en prétendant que des fenêtres de quelques maisons, on avait tiré sur les troupes. Outre que le rapport officiel du général Magnan semble démentir ce bruit, j'affirme que les décharges ont été instantanées de la porte Saint-Denis à la porte Montmartre et qu'il n'y a pas eu, avant la décharge générale, un seul coup tiré isolément, soit des fenêtres, soit par la troupe, du faubourg Saint-Denis au boulevard des Italiens. » Un autre, qui n'a pas non plus entendu le coup de feu, dit « Les troupes défilaient devant le perron de Tortoni, où j'étais depuis 20 minutes environ, lorsque, avant qu'aucun bruit de coup de feu soit arrivé à nous, elle s'ébranle, la cavalerie prend le galop, l'infanterie le pas de course. Tout d'un coup, nous voyons venir du côté du boulevard Poissonnière une nappe de feu qui s'étend et gagne rapidement. La fusillade commencée, je puis garantir qu'aucune explosion n'avait précédé, que pas un coup de fusil n'était parti des maisons depuis le café Frascati jusqu'à l'endroit où je me tenais. Enfin, nous voyons les canons des fusils des soldats qui étaient devant nous s'abaisser et nous menacer. Nous nous réfugions rue Taitbout, sous une porte cochère. Au même moment, les balles passent par-dessus nous et autour de nous. Une femme est tuée à 10 pas de moi, au moment où je me cachais sous la porte cochère. Il n'y avait là, je peux le jurer, ni barricade, ni insurgé. Il y avait des chasseurs et du gibier qui fuyaient, voilà tout. Cette image, chasseurs et gibier, et celle qui vient tout d'abord à l'esprit de ceux qui ont vu cette chose épouvantable. Nous retrouvons l'image dans les paroles d'un autre témoin. On voyait les gendarmes mobiles dans le bout de ma rue, et je sais qu'il en était de même dans le voisinage, tenant leurs fusils et se tenant eux-mêmes dans la position du chasseur qui attend le départ du gibier. C'est-à-dire le fusil près de l'épaule, pour être plus prompt à ajuster et tirer. Aussi, pour prodiguer les premiers soins aux blessés tombés dans la rue Montmartre, près des portes, voyait-on de distance en distance les portes s'ouvrir, un bras s'allonger et retirer avec précipitation le cadavre ou le moribond que les balles lui disputaient encore. Un autre témoin rencontre encore la même image. Les soldats embusqués au coin des rues attendaient les citoyens au passage, comme des chasseurs guettent leur gibier. Et à mesure qu'ils les voyaient engagés dans la rue, ils tiraient sur eux comme sur une cible. De nombreux citoyens ont été tués de cette manière, rue du Sentier, rue Rougemont et rue du Faubourg Poissonnière. Partez, disaient les officiers aux citoyens inoffensifs qui leur demandaient protection. À cette parole, ceux-ci s'éloignaient bien vite et avec confiance. Mais ce n'était là qu'un mot d'ordre qui signifiait « mort ». Et en effet, à peine avaient-ils fait quelques pas qu'ils tombaient à la renverse. Au moment où le feu commençait sur les boulevards, dit un autre témoin, un libraire voisin de la maison des tapis s'empressait de fermer sa devanture lorsque des fuyards, cherchant à entrer, sont soupçonnés par la troupe ou la gendarmerie mobile, je ne sais laquelle, d'avoir fait feu sur elle. La troupe pénètre dans la maison du libraire. Le libraire veut faire des observations. Il est seul amené devant sa porte et sa femme et sa fille n'ont que le temps de se jeter entre lui et les soldats, qu'ils tombaient morts. La femme avait la cuisse traversée et la fille était sauvée par le busque de son corset. La femme, m'a-t-on dit, est devenue folle depuis. Un autre témoin dit « Les soldats pénétrèrent dans les deux librairies qui sont entre la maison du prophète et celle de M. Salandrouz. Les meurtres commis sont avérés. On a égorgé les deux libraires sur le trottoir. Les autres prisonniers le furent dans les magasins. » Terminons par ces trois extraits qu'on ne peut transcrire sans frissonner. Dans le premier quart d'heure de cette horreur, dit un témoin, le feu, un moment moins vif, laisse croire à quelques citoyens qui n'étaient que blessés qu'ils pouvaient se relever. Parmi les hommes gisant devant le prophète, deux se soulevèrent. L'un prit la fuite par la rue du Sentier, dont quelques mètres seulement le séparaient. Il y parvint au milieu des balles qui emportèrent sa casquette. Le second ne put que se mettre à genoux et, les mains jointes, supplier les soldats de lui faire grâce. Mais il tomba, à l'instant même, fusillé. Le lendemain, on pouvait remarquer, à côté du perron du prophète, une place, à peine large de quelques pieds, où plus de 100 balles avaient porté. À l'entrée de la rue Montmartre, jusqu'à la fontaine, l'espace de 60 pas, il y avait 60 cadavres. Hommes, femmes, dames, enfants, jeunes filles. Tous ces malheureux étaient tombés victimes des premiers coups de feu tirés par la troupe et par la gendarmerie, placés en face, sur l'autre côté des boulevards. Tout cela fuyait aux premières détonations, faisait encore quelques pas, puis enfin s'affaissait pour ne plus se relever. Un jeune homme s'était réfugié dans le cadre d'une porte cochère et s'abritait sous la saillie du mur, du côté des boulevards. Il servait de cible aux soldats. Après 10 minutes de coups maladroits, il fut atteint malgré tous ses efforts pour s'amincir en s'élevant, et on le vit s'affaisser aussi pour ne plus se relever. Un autre, les glaces et les fenêtres de la maison du pont de fer furent brisées. Un homme qui se trouvait dans la cour était devenu fou de terreur. Les caves étaient pleines de femmes qui s'y étaient sauvées inutilement. Les soldats faisaient feu dans les boutiques et par les soupiraux des caves. De Tortoni au gymnase, c'était comme cela. Cela dura plus d'une heure. 6. Bornons là ces extraits. Fermons cet appel lugubre. C'est assez pour les preuves. L'exécration du fait est patente. 100 autres témoignages que nous avons là sous les yeux répète presque dans les mêmes termes les mêmes faits. Il est certain désormais, il est prouvé, il est hors de doute et de question, il est visible comme le soleil que, le jeudi 4 décembre 1851, la population inoffensive de Paris, la population non mêlée au combat, a été mitraillée sans sommation et massacrée dans un simple but d'intimidation, et qu'il n'y a pas d'autre sens à donner au mot mystérieux de M. Bonaparte. Cette exécution dura jusqu'à la nuit tombante. Pendant plus d'une heure, ce fut sur le boulevard comme une orgie de mousqueterie et d'artillerie. La canonnade et les feux de peloton se croisaient au hasard. À un certain moment, les soldats s'entretuaient. La batterie du 6e régiment d'artillerie, qui faisait partie de la brigade Canrobert, fut démontée. Les chevaux, se cabrant au milieu des balles, brisèrent les avant-trains, les roues et les timons, et de toute la batterie, en moins d'une minute, il ne resta qu'une seule pièce qui put rouler. Un escadron entier du 1er lancier fut obligé de se réfugier dans un hangar rue Saint-Fiacre. On compta le lendemain, dans les flammes des lances, 70 trous de balles. La furie avait pris les soldats. Au coin de la rue Rougemont, au milieu de la fumée, un général agita les bras comme pour les retenir. Un chirurgien aide-major du 27e faillit être tué par des soldats qu'il voulait modérer. Un sergent dit à un officier qui lui arrêtait le bras, « Lieutenant, vous trahissez !» Les soldats n'avaient plus conscience d'eux-mêmes. Ils étaient comme fous du crime qu'on leur faisait commettre. Il vient un moment où l'abomination même de ce que vous faites vous fait redoubler les coups. Le sang est une sorte de vin horrible, le massacre enivre. Il semblait qu'une main aveugle lançât la mort du fond d'une nuée. Les soldats n'étaient plus que des projectiles. Deux pièces étaient braquées de la chaussée du boulevard sur une seule façade de maison, le magasin Salandrouze, et tiraient sur la façade à outrance, à toute volée, à quelques pas de distance, à bout portant. Cette maison, ancien hôtel bâti en pierre de taille et remarquable par son perron presque monumental, fendu par les boulets comme par des coins de fer, s'ouvrait, se lézardait, se crevassait du haut en bas. Les soldats redoublaient. À chaque décharge, un craquement se faisait entendre. Tout à coup, un officier d'artillerie arrive au galop et crie « Arrêtez, arrêtez !» La maison penchait en avant. Un boulet de plus, elle croulait sur les canons et sur les canonniers. Les canonniers étaient ivres, au point que, ne sachant plus ce qu'ils faisaient, plusieurs se laissèrent tuer par le recul des canons. Les balles venaient à la fois de la porte Saint-Denis, du boulevard Poissonnière et du boulevard Montmartre. Les artilleurs, qui les entendaient siffler dans tous les sens à leurs oreilles, se couchaient sur leurs chevaux. Les hommes du train se réfugiaient sous les caissons et derrière les fourgons. On vit des soldats, laissant tomber leurs képis, s'enfuir éperdus dans la rue Notre-Dame de Recouvrance. Des cavaliers, perdant la tête, tiraient leurs carabines en l'air. D'autres mettaient pied à terre et se faisaient un abri de leurs chevaux. Trois ou quatre chevaux échappés couraient çà et là, effarés de terreur. Des jeux effroyables se mêlaient au massacre. Les tirailleurs de Vincennes s'étaient établis sur une des barricades du boulevard qu'ils avaient prises à la baïonnette. Et de là, ils s'exerçaient au tir sur les passants éloignés. On entendait des maisons voisines ces dialogues hideux. « Je gâche que je descends celui-ci. Je parie que non. Je parie que si. » Et le coup partait. Quand l'homme tombait, cela se devinait à un éclat de rire. Lorsqu'une femme passait, « Tirez à la femme !» criaient les officiers. « Tirez aux femmes !» C'était là un des mots d'ordre. Sur le boulevard Montmartre, où l'on usait beaucoup de la baïonnette, un jeune capitaine d'état-major criait « Piquez les femmes !» Une femme crut pouvoir traverser la rue Saint-Fiacre, un pain sous le bras, un tirailleur l'abattit. Rue Jean-Jacques Rousseau, on n'allait pas jusque-là. Une femme cria « Vive la République !» Elle fut seulement fouettée par les soldats. Mais revenons au boulevard. Un passant, huissier, fut visé au front et atteint. Il tomba sur les mains et sur les genoux en criant grâce. Il reçut 13 autres balles dans le corps. Il a survécu. Par un hasard inouï, aucune blessure n'était mortelle. La balle du front avait labouré la peau et fait le tour du crâne sans le briser. Un vieillard de 80 ans, trouvé blotti on ne sait où, fut amené devant le perron du prophète et fusillé. Il tomba. « Il ne se fera pas de bosse à la tête, » dit un soldat. Le vieillard était tombé sur un monceau de cadavres. deux jeunes gens d'ici, mariés depuis un mois, ayant épousé les deux sœurs, traversaient le boulevard venant de leurs affaires. Ils se virent couchés en joue, ils se jetèrent à genoux, ils criaient « Nous avons épousé les deux sœurs !» On les tua. Un marchand de coco nommé Robert et demeurant faubourg Poissonnière, numéro 97, s'enfuyait rue Montmartre, sa fontaine sur le dos. On le tua. Note. On peut nommer le témoin qui a vu ce fait. Il est proscrit. C'est le représentant du peuple, Versigny. Il dit « Je vois encore, à la hauteur de la rue du Croissant, un malheureux limonadier ambulant, sa fontaine en fer blanc sur le dos, chanceler, puis s'affaisser sur lui-même, et tomber mort contre une devanture de boutique. Lui seul ayant pour toute arme sa sonnette, avait eu les honneurs d'un feu de peloton. » Le même témoin ajoute « Les soldats balayaient à coups de fusil des rues où il n'y avait pas un pavé remué, pas un combattant. » Fin de note. Un enfant de 13 ans, apprenti sellier, passait sur le boulevard devant le café Vachette. On l'ajuste. Il pousse des cris désespérés. Il tenait à la main une bride de cheval. Il l'agitait en disant « Je fais une commission !» On le tua. 3 balles lui trouèrent la poitrine. Tout le long du boulevard, on entendait les hurlements et les soubresauts des blessés que les soldats lardaient à coups de baïonnette et laissaient là sans même les achever. Quelques bandits prenaient le temps de voler. Un caissier d'une association, dont le siège était rue de la Banque, sort de sa caisse à 2 heures, va rue Bergère toucher un effet, revient avec l'argent, et tué sur le boulevard. Quand on releva son cadavre, il n'y avait plus sur lui ni sa bague, ni sa montre, ni la somme d'argent qu'il rapportait. Sous prétexte de coups de fusil tirés sur la troupe, on entra dans 10 ou 12 maisons, çà et là, et l'on passa la baïonnette tout ce qu'on y trouva. Il y avait, à toutes les maisons du boulevard, des conduits de fonte, par où les eaux sales des maisons se dégorgent en dehors dans le ruisseau. Les soldats, sans savoir pourquoi, prenaient en défiance ou en haine telle maison fermée du haut en bas, muette, morne, et qui, comme toutes les maisons du boulevard, semblait inhabitée, tant elle était silencieuse. Ils frappaient à la porte s'ouvrait, ils entraient. Un moment après, on voyait sortir de la bouche des conduits de fonte un flot rouge et fumant, c'était du sang. Un capitaine, les yeux hors de la tête, criait aux soldats « Pas de quartier !» Un chef de bataillon vociférait « Entrez dans les maisons et tuez tout !» On entendait des sergents dire « Tapez sur les bédouins, ferme sur les bédouins !» Du temps de l'oncle, raconte un témoin, les soldats appelaient les bourgeois Pékin. « Actuellement, nous sommes des bédouins. Lorsque les soldats massacraient les habitants, c'était au cri de « Hardi sur les bédouins !» au cercle de Frascati, où plusieurs habitués, entre autres un vieux général, étaient réunis. On entendait ce tonnerre de mousqueterie et de canonnade, et l'on ne pouvait croire qu'on tirât à balles. On riait et l'on disait « C'est à poudre ! Quelle mise en scène ! Quel comédien que ce Bonaparte-là » On se croyait au cirque. Tout à coup, les soldats entrent furieux et veulent fusiller tout le monde. On ne se doutait pas du danger qu'on courait. On riait toujours. Un témoin nous disait « Nous croyions que cela faisait partie de la bouffonnerie. » Cependant, les soldats menaçant toujours, on finit par comprendre. « Tuons tout » disait-il. Un lieutenant qui reconnut le vieux général les en empêcha. Pourtant un sergent « Lieutenant, feu, nous la paix, ce n'est pas votre affaire, c'est la nôtre. » Les soldats tuaient pour tuer. Un témoin dit « On a fusillé dans la cour des maisons jusqu'aux chevaux, jusqu'aux chiens. » Dans la maison qui fait avec Frascati, l'angle de la rue Richelieu, on voulait arquebuser tranquillement même les femmes et les enfants. Ils étaient déjà en tas pour cela, en face d'un peloton, quand un colonel survint. Il sursit au meurtre, parqua ces pauvres êtres tremblants dans le passage des panoramas dont il fit fermer les grilles, et les sauva. Un écrivain distingué, M. Lireux, ayant échappé aux premières balles, fut promené 2 heures durant de corps de garde en corps de garde, pour être fusillé. Il fallut des miracles pour le sauver. Le célèbre artiste Saxe, qui se trouvait par occasion dans le magasin de musique de Brandus, allait y être fusillé quand un général le reconnut. Partout ailleurs, on tua au hasard. Le premier qui fut tué dans cette boucherie, l'histoire garde aussi le nom du premier massacré de la Saint-Barthélemy, s'appelait Théodore de Baec et demeurait dans la maison du coin de la rue du Sentier, par laquelle le carnage commença.